Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est un mouvement d'ampleur depuis la crise de 2008 dans l'Union. Les pays européens ont massivement réformé leur droit du travail et ils présentent tous ces réformes comme nécessaires pour s'adapter au marché. En Allemagne, le gouvernement du social-démocrate Gerhard Schröder avait pris de l'avance dès les années 2000 avec les lois Hartz. Depuis, les chiffres du chômage ne cessent de chuter, moins de 5% en décembre dernier, c'est pratiquement deux fois moins que la France. Mais derrière cette statistique record se cache la précarité de nombreux emplois. C'est ce que nous allons voir avec notre correspondant en Allemagne, Julien Méchaussi. Entre travail à temps partiel, job à 1 euro de l'heure, une nouvelle tendance est apparue, le travail à la demande. Bonjour Julien.
Bonjour Catherine.
Alors le travail à la demande, expliquez-nous donc ce nouveau phénomène.
Eh bien cette nouvelle forme de travail en rappelle fortement les fameux contrats à zéro heure. En Grande-Bretagne, Catherine, il s'agit de travailleurs qui s'engagent à se rendre disponibles dès que leur employeur leur demande de travailler. Ils n'ont pas d'horaire fixe et sont tenus de réagir à chaque appel ou simple SMS. D'où ce nom de Rufarbeit, de travail à l'appel en allemand. Et s'ils refusent, eh bien ils courent le risque de perdre cet emploi déjà très précaire ou bien de ne pas cumuler assez d'heures pour finir le mois.
On peut parler de journaliers modernes, Julien. Qui sont d'ailleurs ces travailleurs suspendus à leur téléphone portable?
D'après une étude toute récente publiée par le prestigieux IAB, l'Institut allemand de recherche sur le marché du travail, ce phénomène concerne 4,5% de la population active, soit plus de 2 millions de personnes. L'étude de l'IAB révèle que ces emplois concernent surtout le secteur des services, agents de sécurité, restauration, commerce, mais également aide à la personne. Des mesures mises en place pour réintégrer les chômeurs de longue durée sur le marché du travail sont par ailleurs pointées du doigt par cette étude. Des mesures qui contribuent à l'apparition de ce phénomène. On pense évidemment aux mini-jobs, ces contrats à 400 euros par mois qui permettent notamment à l'employeur de disposer de travailleurs quand il en a besoin.
Et on comprend bien les avantages pour les employeurs, des travailleurs très flexibles, moins coûteux puisqu'ils travaillent uniquement selon les besoins. Mais qu'en est-il des travailleurs, Julien?
Ils connaissent une grande précarité, comme ils travaillent, même si c'est peu d'heures à la fin du mois, ils ne profitent pas des aides sociales. Difficile également de prévoir quoi que ce soit, puisque vous ne savez jamais quand vous allez travailler. Se pose évidemment la question de la vie familiale et du bien-être, tout simplement de ces personnes. Toujours selon l'étude conduite par l'Institut IAB, les travailleurs à la demande sont en moyenne moins satisfaits de leur vie et de leur temps libre que les autres. Et c'est exactement le revers de la médaille des bons chiffres du chômage ici. Si l'Allemagne va de record en record, flirtant même avec le plein emploi, eh bien le travail précaire et les travailleurs pauvres ne cessent, eux, d'augmenter.
Julien Méchaussi, notre correspondant en Allemagne. À bientôt, Julien.
À bientôt, Catherine.
Il n'y a pas qu'en Allemagne où les modifications du code du travail jouent en défaveur des salariés. Elles peuvent même aboutir à de véritables perversions. C'est le cas en Hongrie. Une nouvelle loi travail a été votée en décembre dernier et elle permet à un employeur de demander 400 heures supplémentaires par an à ses salariés, l'équivalent de deux week-ends par mois. Certes, personne n'est obligé de faire des heures sup, mais en pratique, il sera difficile de refuser et surtout, les employeurs pourront comptabiliser ces heures à peu près quand ils veulent. Florence Labruyère nous appelle de Budapest.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'a assuré, la nouvelle loi bénéficie aux salariés. Personne ne sera obligé de faire des heures supplémentaires. Ceux qui le souhaitent pourront travailler plus et gagner plus. En revanche, selon les syndicats, cette nouvelle loi vise à exploiter encore un peu plus les travailleurs, surtout ceux de l'industrie automobile. Au sud de Budapest, l'usine Mercedes tourne à plein régime. Comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, les employés font déjà des heures supplémentaires. Beaucoup n'ont pas vraiment le choix, ils ont des crédits sur le dos et doivent les rembourser. Jusqu'ici, les heures étaient limitées à 300 par an par la convention collective. En augmentant ce nombre à 400, le gouvernement autorise l'employeur à contourner la convention collective. Cela provoque la colère des citoyens qui manifestent depuis plus d'un mois. Deux raisons expliquent cette indignation. D'abord, l'employeur aura un délai de 3 ans pour payer ses heures additionnelles. Ensuite, si un ouvrier fait beaucoup d'heures supplémentaires pendant une année, mais se retrouve au chômage technique l'année suivante et ne travaille plus que 3 jours par semaine parce qu'il n'y a pas assez de commandes, l'entreprise peut faire une moyenne du volume d'heures travaillées. Autrement dit, ce mode de calcul revient tout simplement à faire disparaître les heures supplémentaires. Pas étonnant que la majorité des syndicats dénoncent une loi esclavagiste. Ils appellent à une nouvelle journée d'action le 11 février prochain.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
C'est l'autre perversion du marché du travail européen. Les droits des salariés n'y sont pas toujours respectés. En tant que consommateur, on pense pourtant acheter responsable quand les étiquettes indiquent « Made in Europe ». La réalité est parfois bien moins rose, Eve, comme vous nous le racontez aujourd'hui.
Et oui, c'est un article publié dans les pages de l'hebdomadaire allemand Die Zeit qui nous raconte l'envers du décor en prenant l'exemple de l'industrie textile en Bulgarie. Le pays compte de nombreuses usines qui alimentent depuis des décennies les boutiques de marques européennes comme par exemple H&M, le géant suédois de la fast fashion, que certains traduiront par mode jetable, mais aussi d'autres marques plus haut de gamme comme Hugo Boss ou Burberry.
Et selon une récente étude, les travailleurs bulgares n'auraient rien à envier à leurs collègues des usines textiles d'Inde ou du Cambodge.
Oui, cela semble surprenant, et pourtant l'étude a été menée et coordonnée par le réseau Clean Clothes Campaign, littéralement la campagne des vêtements propres, qui observe les conditions de travail des employés dans les usines textiles de sous-traitance des grandes marques occidentales. Et le constat est donc sans appel, en effet, la situation des travailleurs bulgares est souvent pire que celle des employés travaillant pour les mêmes entreprises depuis l'Asie. L'ONG a choisi de revenir sur les promesses de H&M, donc la grande marque de vêtements suédoise, de proposer un salaire vital aux quelques 850 000 salariés travaillant chez ses fournisseurs les plus stratégiques.
Cet engagement avait été pris, si je me souviens bien, à la suite de l'effondrement d'un bâtiment d'usine textile au Bangladesh, il y a de cela 5 ans.
Exactement, et bien 5 ans plus tard, on est loin du compte. En Bulgarie, les travailleurs et travailleuses gagnent 260 euros environ par mois, soit 9% du salaire vital estimé, sauf pour celles qui acceptent des temps de travail qui peuvent avoisiner les 80 heures hebdomadaires, qui leur permet cette fois-ci de gagner 200 euros supplémentaires. L'estimation du salaire vital est faite par les salariés eux-mêmes, qui prennent en compte les besoins tels que le loyer, la nourriture, les soins de santé, d'épargne, de transport, d'éducation et d'habillement. Autre point de repère, le seuil du risque de pauvreté fixé dans le pays à 350 euros. Bref, cette situation est donc 4 fois pire que dans des pays comme l'Inde ou le Cambodge ou encore la Turquie.
Car les usines bulgares subissent de plein fouet la concurrence de travailleurs encore moins bien payés qu'eux.
Oui, c'est d'ailleurs pour cela que quand on compare leurs revenus au niveau de vie du pays, ce sont les plus mal lotis finalement. Le collectif éthique sur l'étiquette demande aujourd'hui aux leaders de la fast fashion d'aller au-delà des annonces fracassantes et des mesures cosmétiques pour améliorer vraiment les conditions de vie de ces travailleurs.
En attendant, la situation en Bulgarie n'est pas prête de s'améliorer.
Non, car depuis 2007 et son entrée dans l'Union européenne, le pays assiste impuissant à une véritable fuite de la main-d'œuvre. Et si, comme dit l'article, c'est grâce aux bas salaires que l'industrie textile est restée dans le pays, c'est aussi à cause d'eux que les gens partent. L'industrie du textile, qui a longtemps été l'un des piliers de l'économie du pays pendant des décennies, montre aujourd'hui des signes d'épuisement. Depuis 1990, il faut savoir qu'il y a à peu près 1,5 million de Bulgares qui ont quitté le pays. La population est passée de 9 à un peu plus de 7 millions de personnes. Et aujourd'hui, par exemple, le nombre de Bulgares qui vivent en Allemagne a fait un bond depuis 2007 de 563% selon cette fois-ci l'Office allemand de la statistique. Le seul moyen de stopper l'hémorragie, eh bien, ce serait d'encourager une hausse des salaires. Mais dans un pays où il y a peu de représentants syndicaux et où les entreprises occidentales viennent pour casser les prix, cela semble plutôt mal parti.
Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir en Europe pour harmoniser les normes sociales.
Oh là, on en est très loin, Catherine.
Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. But a VC will be there with money in his wallet. If I pitch him like a boss, I could get funding for my project. 7-figure sum and I'll be crushing everyone at the hackathon tonight. At the hackathon tonight.
Si le code du travail se modifie de plus en plus en Europe, les méthodes de recrutement également. Intelligence artificielle, hackathon, escape games, le sacro-saint duo CV plus entretien paraît obsolète aujourd'hui, non seulement parce qu'il ne permet pas toujours de cerner la personnalité du candidat, mais surtout parce qu'il donne une image ringarde de l'entreprise. Et c'est le reportage de Frédéric Lebel.
À l'école 42, on ne fait jamais les choses comme les autres. Dans cette école d'informatique et de coding, située dans le nord de Paris, les élèves apprennent en faisant et en jouant. Aucun cours magistral. Pas étonnant donc que les recrutements suivent aussi un processus inattendu. En l'occurrence, le hackathon, une sorte de concours sur 48 heures pendant lequel différentes équipes d'étudiants proposent des solutions innovantes à la problématique d'une entreprise. Béni Sedbin, directeur pédagogique.
Ça permet à l'entreprise de tester instantanément deux points forts d'un étudiant. Point numéro un, sa créativité. Et même si je sais qu'il y a des entreprises qui cherchent juste des petites mains pour coder et autres, mais encore une fois, quand ils font un hackathon, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils cherchent. Donc la créativité, quelqu'un qui va donc répondre à des problèmes, ce qui est quand même le quotidien des entreprises. Et deuxièmement, est-ce qu'il est capable de aussi le faire ? C'est-à-dire que avoir des idées, c'est bien, savoir le faire, c'est mieux. Et donc là, en deux jours, est-ce qu'il est capable de produire déjà le minimum syndical ? Et ça veut dire aussi, est-ce qu'il est capable de voir qu'est-ce qu'est le minimum syndical ?
Les élèves apprennent en travaillant sur ces hackathons et les entreprises découvrent de nouveaux talents et chacun y trouve encore beaucoup d'autres avantages.
Les entreprises ne payent pas grand-chose au final, ça leur a coûté beaucoup plus cher en RH, en cabinet de recrutement pour peut-être trouver quelqu'un et la perle rare. Alors que là, il leur suffit de payer des pizzas et en fait un petit prix à la fin qui est assuré pour pouvoir trouver la bonne personne possiblement. Mais encore une fois, c'est possiblement, ils ne sont pas assurés, mais il y a de fortes chances. Et donc, ils sont gagnants. Et en plus, alors on a des entreprises un peu vieux jeu, des fois, qui viennent et qui ont des problématiques qui, clairement, peuvent être résolues par le code. Et ça permet aussi aux étudiants de se dire, tiens, je peux aussi coder dans des entreprises auxquelles j'aurais jamais pensé.
François est diplômé de l'école 42 et c'est lors d'un hackathon qu'il a été repéré par son premier employeur, un grand groupe agroalimentaire. Pour lui, ce sont finalement les entreprises qui tentent de séduire les nouvelles recrues et non l'inverse, car dans son secteur, on ne connaît pas le chômage.
L'entreprise est très 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 demandeuse. En fait, les développeurs sont très demandés, très 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 sollicités. Du coup, ils sont essentiellement là pour se marrer. Sachant en plus que comme il y a des hackathons un peu toutes les semaines, on a plus l'embarras du choix qu'autre chose. Et un développeur va rarement aller là pour être repéré, pour être sollicité, sachant qu'il sait très bien que s'il passe 2-3 coups de fil à quelques personnes chez l'entreprise, il sera recruté de toute manière.
Autre ambiance, autre stratégie. Nous sommes chez PwC, un des plus grands cabinets d'audit. L'entreprise reçoit plus de 70 000 CV par an, tous examinés par un service de recrutement composé de 40 personnes. Il y a un an, l'équipe a voulu ajouter un escape game dans le processus de sélection des candidats.
Bonjour à tous. Alors, je suppose que vous êtes au courant de la mission qui est en cours chez Interpol, non ? La recherche du professeur Malware.
Par groupe de 5 ou 6, les jeunes diplômés sont invités non pas à trouver une stratégie pour fuir une situation intenable, l'ironie a ses limites, non par le biais de cet escape game, ils sont invités à résoudre une énigme, Sybille Dupont, responsable du recrutement.
Ça nous permet, pendant l'escape game, de voir des choses vraiment concrètes et vrai sur le candidat. C'est facile pour un candidat de dire « Ah, moi, je suis quelqu'un qui communique très bien. » Sauf que quand il est justement en escape game, pendant le jeu, potentiellement en situation un peu de stress, ou en tout cas d'adrénaline qui monte parce qu'il a envie de résoudre la problématique, bah, est-ce que justement, là, il communique réellement ? Et donc, c'est très intéressant pour nous d'avoir, non pas les dires, mais vraiment les faits de la personne.
J'ai trouvé un interrupteur, les gars.
C'est une image ?
Un lama,
ok.
Cette nouvelle étape dans une sélection qui comprend toujours plusieurs entretiens n'est pas un gadget, assure la chargée des ressources humaines. Le jeu a été spécialement conçu pour tester les compétences des 300 auditeurs juniors qui seront recrutés cette année.
Je prends ça et essayer. C'est pas le logiciel qui est en train de s'effacer.
Thibaut fait partie des heureux élus. Il a intégré la société l'an dernier. Il juge que l'escape game est peut-être plus révélateur qu'un entretien classique.
Pour avoir vécu les deux, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes autour d'une table, en fait, chacun va parler, chacun son tour. Et en fait, quand vous parlez, vous voyez vraiment la personne qui va vous évaluer, qui se décale, qui vous fixe et qui note ce que vous dites. Alors que quand vous faites un escape game, en fait, vous êtes dans une autre interaction, c'est-à-dire que les personnes qui vous évaluent, ils sont complètement à part de la scène, ils vont être assis. Vu que vous allez interagir avec les autres personnes, vous ne ressentez pas cette pression, comme vous dites, de la personne qui vous évalue. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cet enjeu de se dire qu'on est évalué et que c'est quand même un entretien pour intégrer une entreprise.
Vas-y. Moi, je peux avancer et toi, tu peux tourner. On essaie de récupérer cette grosse clé. Est-ce qu'elle ouvre quelque chose ?
Pendant l'épreuve, certains candidats rient jaune, faussement naturel, bien conscient que le recruteur est dans le fond de la salle. Mais ce processus innovant fait mouche pour certains candidats. L'entreprise démontre ainsi qu'elle s'est inventée un autre rapport au travail, Sybille Dupont.
Ça peut faire société innovante, on le voit pas, mais avec des guillemets, mais en fait, on l'est. Puisqu'on a mis en place beaucoup de choses au sein de PwC, justement sur de l'innovation. Alors, je pourrais vous en citer plein, hein, mais entre l'incubateur, des projets de transformation avec beaucoup de data, des activités de cybersécurité qu'on développe beaucoup chez nous. Vous avez du dress for your day, donc les collaborateurs viennent habillés comme ils doivent être habillés pour leur journée, donc ils sont face à un client, ils viennent en costume. Ils ne sont pas face à un client, ils peuvent venir en jean.
Vous avez réussi ? Bravo !
Ce jeu intelligent n'a peut-être pas les vertus d'un détecteur de mensonges, mais il a permis au cabinet de conseil un succès. Les meilleurs candidats choisissent désormais en plus grand nombre de venir travailler chez PwC.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Je cherche des gens qui auraient le power. J'ai 6 postes à pourvoir, oui, j'en ai 6. Je cherche un graphiste web designer. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait du web design et du print ? Non ? Personne. Bon.
Autre façon de recruter pour le moins originale, envoyer carrément sa DRH, déclamer des offres d'emploi dans le métro, c'est ce qu'a fait la marque Michel et Augustin.
Est-ce que vous avez le power là maintenant ? Oui !
Pour renforcer les équipes, les employeurs rivalisent également d'ingéniosité. Escape game, là aussi, énigme, saut à l'élastique et même montagne russe. En Espagne, les cadres vont tester leurs limites et surmonter leurs peurs dans le parc thématique de Tarragone à Port Ventura. Une expérience qui ne fait pas que des heureux, Diane Cambon.
Shambhala, le nom fait référence à un paradis perdu de l'Himalaya. Mais ici, dans le parc d'attractions de Port Aventura, c'est la montagne russe la plus impressionnante et la plus redoutée. Elle bat tous les records. La plus haute d'Europe, 76 mètres, la descente la plus longue et la plus rapide, à 134 km/h. Tout un défi pour ce groupe de 50 salariés venus de France pour surmonter leur peur. Jean est fier d'avoir expérimenté l'effet connu sous le nom d'airtime qui définit la perte de contact avec le siège lorsque le chariot s'élance dans le vide.
C'est vrai que la montée c'est impressionnant parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va aussi haut. Et en fait, au déclenchement, on n'a plus le temps de réaliser. Je pensais que c'était violent, mais c'est doux en fait. Il y a les sensations, mais c'est pas... J'avais plus peur pour l'estomac.
Destiné en priorité aux familles, le parc Aventura accueille chaque fois plus de cadres en quête de sensations fortes. L'objectif est de renforcer l'identité corporatiste, mais aussi de fortifier et motiver les employés, comme l'explique Nathalie, responsable chez Optical Center.
Chacun a fixé ses objectifs. Moi, ça y est, c'est atteint. C'est bon. Moi, j'ai fait... C'est quoi qu'on a fait ? Ouais, c'est un truc russe, là. Ça monte, ça descend. Moi, j'ai testé mes limites, ouais. Voilà.
Toutefois, ces méthodes de choc ne font pas que des heureux parmi les employés. François, qui souffre de vertige, ne cherche pas à surmonter ses peurs.
Je suis courageux, mais pas téméraire. Ouais, celle-ci, non, j'apprécie pas. Pas trop le danger, là. Ah, bah, il y a des caractères qui se révèlent aussi ici, hein, forcément. Après, ça resserre les liens entre équipes et voilà, on passe une bonne journée. Donc oui, ça se ressent après. Demain, tout le monde aura des choses à se raconter et ce sera une bonne semaine.
Les voyages de stimulation sont à la mode dans les entreprises où les journées peuvent ressembler parfois aussi à des montagnes russes émotionnelles.
Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, il y avait bien sûr Françoise Grelot. Vous pouvez nous suivre sur RFI.fr et nous retrouver sur les réseaux sociaux.